Bonjour à tous, nous sommes le lundi 16 mars. Agnès Souviran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, des mesures de plus en plus dures pour limiter la propagation du coronavirus en France. Des rassemblements limités, 300 000 élèves privés d'école et le développement de la télémédecine, tout en essayant de préserver l'activité économique du pays. On voit les termes de cette difficile équation après les autres titres, Agnès.
Les élections municipales seront-elles affectées justement par la peur du Covid-19? Les états-majors s'inquiètent. Retour sur les violences samedi soir en marge d'une manifestation féministe à Paris. Les femmes dans la rue au Chili. Et puis une adaptation décevante de la pièce de Tennessee Williams, La ménagerie de verre avec Isabelle Huppert.
Ne manquez pas dans le Zoom, dans un quart d'heure environ, avec ce matin un reportage exceptionnel à Idlib en Syrie, où notre envoyé spécial Aurélien Colli est l'un des rares journalistes à avoir pu entrer. Vous verrez ça tout à l'heure. Les invités d'Inter ce matin à 7h50, Léa.
Elles sont 114 femmes, avocates pénalistes. Elles se disent féministes et pourtant elles s'inquiètent pour l'état de droit dans une tribune publiée ce week-end dans Le Monde. N'oublions pas la présomption d'innocence et la prescription, disent-elles en substance. On reçoit l'une de ces sopranos du barreau, l'avocate Marie Dosé sera avec nous à 7h50.
Et à 8h20, Léa, nous recevons dans le grand entretien de la matinale le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire. Vos questions 01 45 24 7000.
France Inter. La France n'est pas encore passée au niveau 3 de l'épidémie de Covid-19. Pourtant, plusieurs nouvelles mesures ont été annoncées hier soir, alors que le bilan est de 19 morts et plus de 1100 cas recensés. La mesure la plus spectaculaire concerne l'interdiction désormais de rassemblement de plus de 1000 personnes. Des exceptions sont tout de même prévues, les manifestations, les concours, les transports en commun et les événements considérés comme utiles à la nation. Décision a également été prise, Daniel Messager, de faciliter les consultations par Internet.
Progressivement, le pays glisse vers des mesures plus restrictives. C'est le cas avec l'interdiction des rassemblements de plus de 1000 personnes, tout en maintenant un stade 2 et des graduations faites de différenciation et de proportionnalité. Alors, ça peut paraître abstrait comme ça, mais voilà ce que ça signifie. La différenciation, c'est territoire par territoire. Certains connaissent une circulation active du virus. Il est alors normal de fermer des écoles, l'Oise, le Haut-Rhin. La proportionnalité, c'est garantir une vie sociale tout en limitant les risques. Les rassemblements non indispensables ne doivent pas être maintenus. Le glissement se fait aussi côté prise en charge sanitaire. Comme seuls les cas graves seront hospitalisés, les médecins de ville vont être en première ligne. Il faut les aider à consulter. La télémédecine va donc monter en puissance. Un décret va permettre d'assouplir son accès. Il est mis fin à l'obligation d'avoir eu une consultation physique avec le médecin dans l'année précédant une téléconsultation. Dans les hôpitaux qui devront assurer les soins des cas graves, les heures supplémentaires vont être déplafonné, histoire de montrer au personnel que la prise en charge va être longue et fatigante et que le gouvernement l'anticipe.
Concernant les matchs PSG Dortmund demain et France-Irlande samedi, la décision sera prise dans les heures qui viennent. Des mesures aussi devraient être annoncées pour venir en aide aux entreprises. Une réunion est prévue ce matin à Bercy. Selon la ministre du Travail, 900 entreprises ont déposé des demandes de chômage partiel. Cela concerne 15 000 salariés. Ce sont aujourd'hui 4 députés et 2 salariés de l'Assemblée qui sont touchés par le coronavirus. Un nouveau foyer a également été découvert dans la région d'Ajaccio, où tous les établissements scolaires resteront fermés durant 14 jours. 165 000 élèves dans l'Oise, 125 000 dans le Haut-Rhin, 10 000 donc en Corse. En tout, plus de 300 000 élèves privés d'école, mais pas de cours, qui sont dispensés par Internet. Et pour tous les autres, une nouvelle activité à l'heure de la récré, le lavage de mains. Reportage à la sortie d'une école parisienne de Sonia Princé.
Les enseignants et les directeurs ont reçu des consignes, ne pas répondre aux journalistes. Mais à la sortie de l'école, les enfants racontent. Gabrielle est avec sa mère, Caroline.
Le savon, il n'y en a pas énormément. Et alors que là, ils en ont mis beaucoup.
Les enfants m'ont toujours dit que dans les écoles, ils souhaitaient même ne pas utiliser les toilettes parce que les toilettes étaient sales et que de toute manière, il y avait rarement du savon. Donc je pense que ça a changé.
Là, je me lave beaucoup plus les mains qu'avant. 4 fois à peu près.
Un changement radical dans les habitudes, l'école va même plus loin, comme le dit Khadija et comme le confirme Aristide.
Ils ont un atelier lavage de mains aujourd'hui pour voir qui se lave mieux les mains. Parce qu'ils ont tendance à se laver un peu comme des petits chats, à se barbouiller les mains.
Oui, il y a un concours de celui qui se lave plus les mains gagne une récompense.
Les problèmes d'hygiène dans les établissements scolaires ne sont pas nouveaux. Beaucoup d'écoles sont sous-équipées en savon, en lavabo. Cette directrice et militante syndicale en témoigne.
Il y a des endroits, effectivement, où il n'y a pas de savon, où il n'y a pas de torchon ou d'essuie-main. Donc, en période d'épidémie, les mairies pourvoient en urgence, mais on reste dans un contexte où, effectivement, les conditions d'hygiène ne sont pas du tout optimales.
Tout le monde a conscience qu'il faut agir, c'est au moins un point positif.
France Inter, il est 7h05, en Italie, ce sont 15 millions d'habitants du nord du pays qui doivent vivre, Agnès, confinés jusqu'au 3 avril.
L'Italie, en effet, désormais deuxième pays le plus touché après la Chine, avec 366 décès et 7375 cas positifs. À l'annonce de la suspension des visites familiales, des mutineries ont éclaté dans plusieurs prisons, faisant au moins un mort. Nous serons en direct de Rome dans le journal de 8h. Premier décès enregistré également en Afrique. Il s'agit d'un ressortissant allemand de 60 ans en vacances en Égypte. Et parmi les conséquences également, l'annulation du tournoi de tennis d'Indian Wells en Californie qui devait débuter demain. À ce jour, le Covid-19 est présent dans une centaine de pays dans le monde, a atteint près de 110 000 personnes et tué 3792 malades. Dans ce contexte, un sondage IFOP nous apprend ce matin que plus d'un quart des électeurs français, 28% exactement, pourraient ne pas aller voter dimanche au premier tour des municipales par peur de la propagation du virus. Les municipales sont la deuxième élection préférée des Français après la présidentielle. Mais c'est un scrutin qui mobilise de moins en moins Yael Gauz, et pas seulement à cause du virus.
La participation est en chute libre depuis 1983. D'un Français sur cinq boudant les urnes, on est passé en 2014 à plus d'un tiers. Et l'abstention, premier parti de France, pourrait encore grimper, anticipe Brice Teinturier de l'Institut Ipsos.
Il y a des facteurs structurels qui continuent à s'amplifier. La défiance à l'égard de la politique. On a des gens qui travaillent dans des communes, qui habitent dans d'autres et qui sont moins attachés à la commune qu'auparavant. Et puis enfin, il y a des facteurs plus conjoncturels. Et là, c'est le coronavirus. Ou les mouvements sociaux qui, comme le coronavirus, de toute façon, font écran à la campagne.
Et c'est ce qui plombe le plus les candidats dans la dernière ligne droite. Comment parler programme quand l'épidémie sature tout l'espace? Et puis autre frein, la difficulté à lire cette campagne. En 2014, il y a eu un vote sanction contre les maires PS. En 2020, qui sanctionnait? En Marche est une création récente et les alliances sont à géométrie très variable, constate Rémi Lefebvre, professeur de sciences politiques à Lille.
Les enjeux sont pas très lisibles. Bon, on a aussi une énorme fragmentation des repères politiques qui ont un petit peu vacillé. Et ça, ça peut aussi décourager.
Le sursaut viendra-t-il des jeunes? Aux européennes, ils s'étaient davantage mobilisés, mais deux fois moins que les plus de 70 ans. Des municipales peu lisibles, une campagne sous coronavirus. D'après les sondeurs, ce sont surtout les maires sortants qui devraient tirer leur épingle du jeu.
La politique encore avec de très nombreuses réactions aux violences qui ont émaillé la fin de la manifestation féministe samedi soir à Paris avec des affrontements avec les CRS. Pas de blessés dans le rang des manifestantes. Les 9 gardes à vue ont été levés, mais des images qui ont choqué. Toutes les femmes doivent pouvoir manifester pacifiquement pour faire respecter leurs droits, a tweeté Marlène Schiappa. Louane, 24 ans, était dans la manifestation. Elle témoigne au micro d'Antoine Perrin.
Donc ce qui s'est passé, c'est que tout le cortège est arrivé place de la République. On a décidé de rester pour faire des chants et être entre nous. Et en fait, ça n'a pas plu à la police. En fait, on se retrouvait tout en cercle, entourés par des policiers qui refusaient de nous laisser sortir parce qu'on était nassés, et ils gazaient en même temps. Je me suis retrouvée coincée dans un premier cercle où là je me suis fait gazer. Il y a des femmes qui ont été traînées par terre en fait. Elles ont été traînées par terre et laissées par terre, et les CRS ils les enjambent, il y a des images de ça. Moi ça m'a fait un truc parce que je suis pas du tout anti-flic de base. Et je savais qu'il y avait des violences policières, mais là c'était la première fois que moi je me prenais un gaz lacrymo. Ces gens-là qui sont censés me protéger, en fait là je me suis sentie en danger face à eux. Ça fait mal, quoi. On était juste là pour dire non aux violences sexistes et sexuelles. C'était la première fois qu'on avait une marche de nuit. C'était quelque chose d'important. Ils auraient pu nous aider, justement, à encadrer ça correctement. Et c'est pas ce qui s'est passé.
En Espagne, les manifestantes ont défilé hier contre le patriarcat virus. Et près d'un million de Chiliennes, hier également dans les rues de Santiago. Un chiffre impressionnant pour ce petit pays d'Amérique latine de seulement 17 millions d'habitants. Reportage de Justine Fontaine.
L'État oppresseur est un macho violeur, le violeur c'est toi. Au beau milieu de l'Alameda, la gigantesque avenue qui traverse le centre de Santiago, des manifestantes chiliennes reprennent les paroles de la performance du collectif Lastesis, qui a fait le tour du monde à la fin de l'année dernière. Susana Olmedo, 37 ans, est venue manifester avec une amie.
Aujourd'hui, je viens Mon compagnon est resté à la maison pour cuisiner. J'espère qu'il va préparer un bon petit plat. C'est lui qui garde notre fille. C'est vraiment important que nous puissions, nous les femmes, manifester et dire que nous ne voulons plus d'abus, ni de viols, ni de femmes tuées, que nous méritons d'être respectées.
L'avenue déborde de manifestantes, les rues adjacentes aussi, malgré la chaleur écrasante de l'été austral. Pour Barbara, venue avec sa femme, Déborah, le mouvement féministe est indissociable du mouvement social lancé en octobre au Chili.
Les plus grandes inégalités aujourd'hui sont celles qui touchent les femmes. Le féminisme est de plus en plus fort dernièrement. Il rejoint les revendications du mouvement social et prend encore plus de force maintenant. C'est magnifique.
Les Chiliennes continueront de se mobiliser ce lundi avec une grève générale des femmes et de nouvelles manifestations dans les grandes villes du pays. Santiago, Justine Fontaine, France Inter.
L'Union européenne envisage d'accueillir 1500 migrants parmi ceux actuellement bloqués sur les îles grecques. Une annonce qui intervient quelques heures avant la venue à Bruxelles du président turc qui doit s'entretenir en fin de journée avec le président du Conseil et la présidente de la Commission européenne. Erdogan qui a appelé hier la Grèce à ouvrir ses portes aux migrants pour qu'ils se répandent dans le reste de l'Union européenne.
Il est 7h11, c'est l'une des pièces les plus connues de Tennessee Williams après Un tramway nommé Désir et La chatte sur un toit brûlant.
Le metteur en scène flamand Ivo van Hove propose la ménagerie de verre au Théâtre de l'Odéon à Paris avec Isabelle Huppert. De la réunion d'un grand nom du théâtre, d'une grande actrice et d'un chef-d'œuvre, on attendait beaucoup. Trop peut-être, Ilana Mor-Youssef.
C'est dans une sorte d'entresol, dans les tons ocre, habillé de très belles lumières, qu'Ivo van Hove a choisi d'installer ce huis clos familial. La mère, Amanda, Isabelle Huppert, aussi entre combativité et découragement.
Ah, qu'est-ce que nous allons faire le restant de notre existence? Moisir à la maison à regarder passer les défilés, nous amuser avec notre petite ménagerie de verre, ma chérie. Nous n'allons pas avoir de vie professionnelle. Nous allons baisser les bras parce que ça nous donne envie de vomir. Qu'est-ce qui nous reste, à part vivre au crochet des autres toute notre existence?
On voit sur scène une famille, une mère, sa fille et son fils, dans une lutte pour survivre.
Le metteur en scène, Ivo van Hove.
Chacun d'eux a une stratégie de rendre sa vie plus beau que c'est en fait en réalité. Ce n'est pas une pièce sur la pauvreté, mais je crois que la pauvreté va être un thème qui est déjà un thème très important, mais qui va venir le plus important dans le monde.
Hélas, la mise en scène paraît un peu flottante, sans doute n'était-elle pas tout à fait prête le soir de la première, et à part dans quelques scènes poignantes, Isabelle Huppert a tendance à surjouer. La belle présence de Justine Bachelet, qui joue sa fille, ne suffit pas à compenser le manque d'épaisseur des deux personnages masculins.
La ménagerie de verre au Théâtre de l'Odéon à Paris jusqu'au 26 avril.
Merci Agnès Soubiran.